L'encyclopédie, article, le philosophe. Philosophe. Il n'y a rien qui coûte moins à acquérir aujourd'hui que le nom de philosophe. Une vie obscure et retirée, quelques dehors de sagesse avec un peu de lecture, suffisent pour attirer ce nom à des personnes qui s'en honore sans le mériter. D'autres, en qui la liberté de penser tient lieu de raisonnement, se regardent comme les seuls véritables philosophes, parce qu'ils ont osé renverser les bornes sacrées posées par la religion, et qu'ils ont brisé les entraves où la foi mettait leur raison. Fiers de s'être défaits des préjugés de l'éducation en matière de religion, ils regardent avec mépris les autres comme des hommes folles, des gens serviles, des esprits pusillanimes qui se laissent effrayer par les conséquences où conduit l'irreligion et qui n'osent en sortir un instant du cercle des vérités établies ni marcher dans des routes nouvelles s'endorment sous le joug de la superstition. Mais on doit avoir une idée plus juste du philosophe. Et voici les caractères. Les autres hommes sont déterminés à agir sans sentir ni connaître les causes qui les font mouvoir, sans même songer qu'il y en ait. Le philosophe, au contraire, démêle les causes autant qu'il est en lui, et souvent même les prévient, et se livre à elles avec connaissance. C'est une horloge qui se monte, pour ainsi dire, quelquefois elle-même. Ainsi, il évite les objets qui peuvent lui causer des sentiments qui ne conviennent ni au bien-être, ni à l'être raisonnable, et cherche ceux qui peuvent exciter en lui des affections convenables à l'état où il se trouve. La raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir et la raison détermine le philosophe. Les autres hommes sont emportés par leurs passions sans que les actions qu'ils font soient précédées de la réflexion. Ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres. Au lieu que le philosophe, dans ses passions mêmes, n'agit qu'après la réflexion, il marche la nuit, mais il est précédé d'un flambeau. Il croit que la maxime existe, pour ainsi dire, par elle-même. Mais le philosophe prend la maxime dès sa source. Il en examine longuement l'origine. Il en connaît la propre valeur et ne fait rien que l'usage qui lui convient. Le philosophe forme ses principes sur une infinité d'observations particulières. Le peuple adopte le principe sans penser aux observations qui l'ont produit. Il croit que la maxime existe, pour ainsi dire, par elle-même. Mais le philosophe prend la maxime dès sa source. Il en examine l'origine, il en connaît la propre valeur et n'en fait que l'usage qui lui convient. La vérité n'est pas pour le philosophe une maîtresse qui corrompt son imagination et qu'il croit trouver partout. Il se contente de pouvoir démêler où il peut l'apercevoir. Il ne la confond pas avec la vraisemblance. Il prend pour vrai ce qui est vrai, pour faux ce qui est faux, pour douteux ce qui est douteux, et pour vraisemblable ce qui n'est que vraisemblable. Il fait plus, et c'est ici une grande perfection du philosophe, c'est lorsqu'il n'a point de motif propre pour juger, il fait demeurer indéterminé. Le monde est plein de personnes d'esprit, et de beaucoup d'esprit, qui jugent toujours. Toujours il devine, car c'est deviner que de juger sans sentir quand on a le motif propre du jugement. Ils ignorent la portée de l'esprit humain. Ils croient qu'il peut tout connaître. Ainsi, ils trouvent de la honte à ne point prononcer de jugement et s'imaginent que l'esprit consiste à juger. Le philosophe croit qu'il existe à bien juger. Mais il est plus content de lui-même quand il a suspendu la faculté de déterminer que s'il était déterminé avant d'avoir senti le motif propre de la décision. Ainsi, il juge et il parle moins, mais il juge plus sûrement et il parle mieux. Il n'évite point les traits vifs qui présentent naturellement à la pensée par prompt assemblage des idées qu'on est souvent étonné de voir unies. Et c'est dans cette prompte liaison que consiste ce que communément on appelle esprit. Mais aussi, c'est ce qu'il cherche le moins. Et il préfère à ce brillant le soin de bien distinguer ses idées, d'en connaître toute l'étendue et la liaison précise, et d'éviter de prendre le change en portant trop loin à quelques rapports particuliers que les idées ont entre elles. C'est dans ce discernement que consiste ce qu'on appelle jugement et justesse d'esprit. Cette justesse, à cette justesse se joignent encore la souplesse et la netteté. Le philosophe n'est pas tellement attaché à un système qui ne sente toute la force des objections. La plupart des hommes sont si fort livrés à leurs opinions qu'ils ne prennent pas seulement la peine de pénétrer celles des autres. Le philosophe comprend le sentiment qu'il rejette avec la même étendue et la même netteté qu'il entend celui qu'il adopte. Que lui donne l'esprit philosophique est donc un esprit d'observation et de justesse et rapporte tout à ses véritables principes. Mais ce n'est pas l'esprit seul que le philosophe cultive. Il porte plus loin son attention et ses soins. L'homme n'est point un monstre qui doit vivre dans les abîmes de la mer ni dans le fond d'une forêt. Les seules nécessités de vie lui rendre le commerce des autres nécessaire. Et dans quelque état où il puisse se trouver, les besoins et le bien-être l'engagent à vivre en société. Ainsi, la raison exige de lui qu'il connaisse, qu'il étudie, qu'il travaille à acquérir les qualités sociables. Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce monde. Il ne voit peut-être pas un pays en ennemi. Il veut jouir en sage, économe, des sens que la nature des biens lui a donnés, et il veut trouver du plaisir avec les autres. Et pour en trouver, il en faut faire. Ainsi, il cherche à convenir à ceux avec qui le hasard ou le bon choix le font vivre. Et il trouve en même temps ce qui lui convient. C'est un honnête homme qui veut plaire et se rendre utile. La plupart des grands, à qui la dissipation ne laisse pas assez de temps pour méditer, sont féroces envers ceux qui ne croient pas à leurs égaux. Les philosophes ordinaires qui méditent trop, ou plutôt qui méditent mal, le sont envers tout le monde. Il fuit les hommes, et les hommes les évitent. Mais notre philosophe, qui sait se partager entre la retraite et le commerce des hommes, est plein d'humanité. C'est le Crémès de Terence, qui sent qu'il est homme, et que la seule humilité et humanité intéresse à la mauvaise ou à la bonne fortune de son voisin. Homo sum, humani ame nihil alienum puto, Je suis homme et je pense que rien d'humain ne m'est étranger. Il serait inutile de remarquer ici combien le philosophe est jaloux de tout ce qu'il appelle honneur et probité. La société civile est, pour ainsi dire, une divinité pour lui sur la terre. Il l'encense, il l'honore par la probité, par une attention exacte à ses devoirs et par un désir sincère de n'être pas un membre inutile ou embarrassant. Le sentiment de probité entre autant dans la constitution mécanique du philosophe que la lumière de l'esprit. Plus vous trouverez de raison dans un homme, plus vous trouverez en lui de probité. Au contraire, là où règne le fanatisme et la superstition, règnent les passions et l'emportement. Le tempérament du philosophe, c'est d'agir par esprit d'ordre ou par raison. Et comme il aime extraordinairement la société, il lui importe bien plus qu'au reste des hommes de disposer tous ses ressorts à produire que ses effets soient conformes à l'idée de l'honnête homme. Ne craignez pas que, parce que personne n'a les yeux sur lui, il s'abandonne à une action contraire à la probité. Non, cette contradiction n'est point conforme à la disposition mécanique du sage. Il est pétri, pour ainsi dire, avec le levain de l'ordre de la règle. Il est rempli des idées du bien de société civile. Il en connaît les principes bien mieux que les autres hommes. Le crime trouverait en lui trop d'opposition. Il aurait trop d'idées naturelles et trop d'idées acquises à détruire. Sa faculté d'agir est, pour ainsi dire, comme une corde d'instrument de musique montée sur un certain ton. Elle ne saurait produire un autre ton contraire. Il craint de se donner, de se détonner, de se désaccorder avec lui-même. Et c'est aussi me faire souvenir de ce que Veillus disait de Caton d'Utique. Il n'a jamais, dit-il, fait de bonnes actions pour paraître les avoir faites, mais parce qu'il n'était pas en lui de faire autrement. D'ailleurs, dans toutes les actions que les hommes font, ils ne recherchent que leur propre satisfaction actuelle. C'est le bien, ou plutôt l'attrait présent, suivant la disposition mécanique où se trouve qu'il se fait agir. Or, le philosophe est disposé plus que quiconque, par ses réflexions, à trouver plus d'attrait et de plaisir à vivre avec vous, à s'attirer votre confiance, votre estime, à s'acquitter des devoirs de l'amitié et de la reconnaissance. Ses sentiments sont encore nourri dans le fond de son cœur par la religion où l'on conduit les lumières naturelles de sa raison. Encore un coup, l'idée de malhonnête homme est aussi opposée à l'idée de philosophie que l'idée de stupide. Et l'expérience fait voir tous les jours que plus on a de raison et de lumière, plus on est sûr et propre pour le commerce de la vertu et de la vie. Un sot, dit La Rochefoucauld, n'a pas assez d'étoffe pour être bon. On ne pêche que parce que les lumières sont moins vives que les passions. Et c'est une maxime de théologie vraie, en un certain sens, que le tout pécheur est ignorant. Cet amour de la société, si essentiel aux philosophes, fait voir combien est véritable la marque de l'empereur Antonin. Que les peuples seront heureux quand les rois seront philosophes ou quand les philosophes seront rois. Le philosophe est donc un honnête homme qui agit en tout par la raison, et qui jouira et qui joint à un esprit de réflexion et de justesse les mœurs et les qualités sociales. Hantez un souverain sur un philosophe, une telle trempe, et vous aurez un parfait souverain. De cette idée, il est aisé de conclure combien le sage insensible des stoïciens est éloigné de la perfection de notre philosophe. Un tel philosophe est homme, et le sage n'était qu'un fantôme. Ils rougissent de l'humanité, et il en fait gloire. Il voulait follement anéantir les passions et nous élever au-dessus de notre nature par une insensibilité chimérique. Pour lui, il ne prétend pas au chimérique honneur de détruire les passions, parce que cela est aussi impossible. Mais il travaille à bien être pas tyrannisé, à remettre à profit, à en faire un usage responsable, parce que cela est possible et que la raison le lui ordonne. On voit encore, par tout ce que nous venons de dire, combien s'éloigne de la juste idée du philosophe ces indolents qui, livrés à une méditation paresseuse, négligent le soin de leurs affaires temporelles et tout ce qui s'appelle fortune. Le vrai philosophe n'est point tourmenté par l'ambition, mais il veut avoir les commodités de la vie. Il lui faut, outre le nécessaire précis, un honnête superflu, nécessaire à un honnête homme. Ce sont de faux philosophes qui ont fait naître ce préjugé que le plus exact nécessaire lui suffit par leur indolence et par des maximes éblouissantes.